Alors la séduction de Jésus crucifié, c'est pas très commode. Un objet devant lequel on se voile la face. Comme séduction, c'est plutôt pénible. Et je crois que ça, c'est tellement important de comprendre que très vite, Dieu nous demande cette pauvreté dans notre vie apostolique et dans notre vie ordinaire pour maintenir coûte que coûte cette soif de contemplation. Il n'y a que les pauvres qui sont de vrais contemplatifs, qui peuvent aspirer à la contemplation. Dès qu'on a un peu de richesse, dès qu'on accapare les dons de Dieu et qu'on devient un tout petit peu riche, c'est terminé. Très souvent, les arrêts dans la vie contemplative et dans cet effort de contempler Dieu proviennent de ce manque de pauvreté. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de richesse, au moins notre monde nanti, si on était dans l'Inde, serait différent. Si on était en Afrique, serait différent. Mais en Europe ou en Amérique, c'est un monde qui a très grosse richesse. De tous les ordres, du reste. Il faut que nous donnions un témoignage de pauvreté, qui est le témoignage véritable de l'apôtre. Très souvent, l'apôtre ne peut pas agir en toute liberté parce qu'il manque de pauvreté. Il a encore, Marthe vous en donnait un exemple extraordinaire. Et la pauvreté de la petite Marthe, c'est quelque chose d'inouï. À cause même de son état, elle était dans une dépendance absolue de tout et de tous. Dépendance spirituelle. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche se confesser. Dépendance spirituelle. On ne voit pas assez ça. Dépendance au niveau matériel. Souci de ne rien faire qui soit contraire à la volonté du Père. C'est vraiment sa nourriture. Je crois qu'il faut que nous lui demandions très fort d'avoir cette marque divine de la pauvreté qui se traduit dans notre vie concrètement par la pauvreté de fait, arriver progressivement à être de vrais pauvres. Mais c'est surtout la pauvreté intérieure. C'est là où il y a un absolu. La pauvreté extérieure n'est pas un absolu. À l'arrêt d'eau et ici, ce n'est pas la même pauvreté. Et à l'arrêt d'eau même, il y a des degrés différents de pauvreté. La maison de retraite et le couvent et le désert. Des pauvretés différentes. C'est très beau du reste de voir que il y a des pauvretés extérieures très diverses, mais il y a un esprit de pauvreté qui est le même et qui doit animer toute cette diversité. Il faut que nous demandions très fort à Marthe de nous aider à entrer dans cette pauvreté évangélique, celle que Jésus a voulu pour ses apôtres, celle que Jésus veut pour nous, pour être les apôtres. Cette seconde évangélisation dans le monde d'aujourd'hui, ça réclame de nous une très très grande pauvreté. Pauvreté de l'intelligence. Plus nous faisons d'études, plus nous devons être pauvres. C'est-à-dire dépendants. Là. Dépendants de ce que Jésus veut nous enseigner. Dépendants de tout ce qui est nécessaire pour nous de pouvoir entrer pleinement dans ce que l'Esprit Saint réclame de nous. Il faut que nous demandions cette pauvreté dans non seulement intellectuelle, mais affective aussi. C'est encore plus difficile, la pauvreté du cœur. La pauvreté du cœur, c'est de ne pas donner notre cœur comme si nous n'étions pas déjà liés à Jésus. Et sûr qu'être lié à Jésus n'empêche pas d'aimer ses frères, de les aimer avec une force beaucoup plus grande que si nous n'étions pas liés à Jésus. Ça, c'est sûr. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse l'amour humain dans ce lien de charité et qui exige de nous une très grande pauvreté dans l'ordre affectif. Marthe était merveilleuse de simplicité dans cet ordre-là et en même temps d'exigence. C'est une des choses qui m'a toujours beaucoup frappé, ça. Surtout avec les prêtres. Combien Marthe était exigeante, pas du tout moderne dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire dire tout est permis, allez-y, se plaçant au point de vue psychologique, pas du tout. Elle se plaçait dans une vision extraordinairement profonde. Et des petits signes, moi, qui m'a beaucoup frappé, ça je peux le dire parce que, au point de vue pastoral, c'est quand même quelque chose de très important. Je prêchais une retraite là-bas, et il est arrivé un garçon que je connaissais bien. Je savais qu'il fréquentait une jeune fille, comme on dit en Suisse. Et puis, il m'a dit, elle attend un enfant. Est-ce que je dois me marier tout de suite? Je lui ai dit, puisque vous êtes ici, profitez. Je crois que si je le demande, vous pourrez aller voir Marthe. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle me dit, oui, je ne demanderai pas mieux. Alors, il est allé voir Marthe. Quand il est revenu, il est venu me dire, elle est nette. Je dis, oui, c'est vrai, elle est nette. Et Marthe, vous savez ce qu'elle lui a dit? On ne bâtit pas le mariage sur le péché. Et ça, c'est fort. Alors, attendez la naissance de l'enfant. Ayez le courage de vos actes jusqu'au bout. Et puis vous verrez après si elle peut vraiment être votre épouse. Mais il ne s'agit pas maintenant de précipiter parce qu'il y a eu une faute. Vous voyez, c'est beau ça. Et c'est grand. Je cite ça parce que c'est un problème qui, hélas, aujourd'hui se situe souvent. Et cette parole m'a beaucoup éclairé. Ça, je crois que c'est de Dieu. On bâtit un mariage sur un véritable amour. Un amour qui est de Dieu. Et un amour qui puisse recevoir le sacrement de mariage. Il y a là quelque chose, je crois, de très grand et qui nous oblige de nous mettre dans une très grande vérité en face de Dieu. Mais on ne trompe pas Dieu. Et ça, c'était tellement ce que Marthe nous faisait comprendre. Quand on était à côté de Marthe, on comprenait très bien qu'on ne pouvait pas tromper Dieu. Parce que Dieu avait sur nous un regard direct, immédiat. On peut tromper les hommes, c'est sûr. On est tellement habitué de le faire que ça devient presque naturel. Tandis que Dieu, il n'y a pas moyen. Et c'est une des choses que Marthe donnait le plus. Cette rectitude qu'elle exigeait, jusque dans les paroles. Et ça, c'était aussi très très fort. Quand Marthe disait quelque chose et qu'on croyait le comprendre et qu'on le répétait, plus d'une fois ça m'est arrivé, où Marthe a répété « Ah pardon Père, je ne dis pas ça ». C'était simplement une question d'expression qui n'était pas exactement ce qu'elle disait. Et par contre, quand je rapportais, ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que certaines personnes m'ont dit, voilà ce que Marthe a dit. Comme j'étais plus ou moins engagé dedans, je voulais savoir exactement si Marthe l'avait vraiment dit. Et je demande à Marthe, alors Marthe, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Alors Marthe dit, Père, vous savez bien, quand elle vient, c'est elle qui parle. Et comme je ne dis rien, elle croit que je suis d'accord. Et alors elle dit que c'est moi. Je trouvais ça tellement beau. Et tellement vrai. Et Marc le savait. Elle savait bien que on se servait d'elle. Mais en même temps, il y avait avec elle cette chose inouïe de porter pour tous ceux qui lui demandaient. C'est pour ça que je vous dis que si on demande à Marc la lumière, Marc nous la donne. Et une fois, je me souviens, c'était dans les dernières années. Père Finet savait très bien que j'allais voir Marthe le lendemain. Et Père Finet m'a dit, mon père, elle souffre énormément actuellement. Je vous en supplie, essayez, en la voyant demain, de l'aider. Et Père Finet, avec beaucoup d'humilité, m'a dit, moi je ne peux plus rien pour elle. Essayez de l'aider. C'est pour vous montrer la détresse de Marthe à certains moments, qui était très très profonde. Et alors, quand j'ai vu Marthe, Marthe m'a dit tout de suite, « Oh Père, emmenez-moi chez les fous. » Parce que là, je pourrais prier. Ici, je deviens inutile. Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas vrai. Il m'a dit, oui, emmenez-moi chez les fous. Je dis, Marthe, c'est bien dommage, je ne peux pas vous porter sur mon dos, puis vous emmener, je le ferai tout de suite. Eh bien, si je vous emmenais sur mon dos, vous voyez ce que ça ferait. Elle souriait, du reste, à ce moment-là, mais c'était la détresse, une détresse radicale. Je ne suis plus utile. Elle s'ouvrait. Alors c'est là où le lendemain matin, c'est ce jour-là, c'était le dernier jour de la retraite, c'était le jeudi. Et on avait la possibilité de la voir, tous ceux qui faisaient partie de la communauté Saint-Jean et qui suivaient la retraite des prêtres. Dans la petite chambre de Marthe, on était quelquefois une dizaine, 15. Puisqu'on présentait chacun à Marthe. Et on est resté quelques minutes comme ça, et puis quand ils sont partis, j'ai dit à Marthe, vous voyez le fruit de votre prière. Vous voyez bien que c'est pas inutile. Vous voyez le fruit de votre prière. Alors il y a eu un moment de silence. Et Marthe a dit, oh oui, c'est le printemps de l'Église. Qu'il soit fidèle. C'est le printemps de l'Église. Ce sont les petites fleurs du parterre de Jésus. C'était très beau. Au milieu de la souffrance, ce regard si simple, si vrai. Et au fond, moi, je me souviens souvent de ces paroles de Marthe parce que c'est tellement fort de sa part. Connaissait notre fragilité, elle savait bien. Et cependant, elle voyait cet amour de Dieu, cet amour du Christ, et ce désir de Jésus de reprendre tout à partir du cœur de Marie et dans le cœur de Marie. C'était toujours ce qu'elle disait. Il faut que toute la vie religieuse soit reprise dans le cœur de Marie pour qu'elle reprenne sa force, sa vigueur. Qu'elle soit une vraie vie, religieuse, contemplative, pour glorifier le Père et sauver le monde d'aujourd'hui. Donc demandez-lui très fort demain, chacun en particulier, avec tous vos soucis, vos difficultés, vos luttes, Demandez à Marthe d'être fidèle jusqu'au bout. Suivre l'agneau partout où il va. Avec elle.
Conférence privée par le père Philippe à Rimont le 5 février 1988.
Ce n'est pas une conférence que je fais ce soir, c'est plutôt quelques remarques. Des remarques entre nous, pas. D'abord, premièrement, je ne suis pas encore absolument sûr que demain matin je serai là pour les cours. J'ai dit au père Samuel, au frère Samuel, que s'il me voit à l'oraison, ça prouve que je suis là. Si je ne suis pas à l'oraison, ça prouve que je ne serai là que pour la messe. Puis après, je dois aller appeler le voisin. Puis je reviens dimanche ici. Je crois que ce sera difficile de faire un cours dimanche, parce que il y aura d'autres personnes. Puis alors après, c'est le chapitre. Alors, quelques mots sur le chapitre. Je vous ai déjà dit, et je le dis ici devant les sœurs, puisque les sœurs sont là, et que le chapitre intéresse quand même les sœurs, sans qu'elle soit directement intéressée, puisque elles ne sont pas sous notre gouvernement. J'ai dit notre gouvernement, c'est-à-dire celui de la congrégation. Mais elles le sont spirituellement, mystituées. Donc d'une façon encore beaucoup plus profonde que si c'était canoniquement. C'est quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc elles ont tout avantage à prier énormément pour que ce chapitre porte tous ses fruits. Oui, parce qu'elles ont avantage que parmi la communauté, il y ait quelques saints quand même. Pour elles, ça jaillira sur elles. S'il y a quelques saints dans la communauté, il y aura quelques saints parmi les sœurs. C'est toujours comme ça. Par mode de famille, par mode de contagion. Tandis que s'il n'y en a pas, alors c'est quand même le désir qu'il y ait quelques saints parmi vous, j'espère bien, il y a un germe de sainteté, j'en suis sûr. Alors priez beaucoup, et tous, et tous les frères, ceux qui sont au chapitre, ils sont obligés de le faire, obligés d'écouter, de mettre toute leur intelligence au service du bien commun, puisque le chapitre, c'est au niveau du bien commun. Du bien commun de la communauté, de la congrégation Saint-Jean. Alors cherchez bien de savoir qu'est-ce que c'est que ce bien commun de la communauté Saint-Jean. Le bien commun de l'Église, c'est le mystère de Jésus dans le cœur des saints, de tous ses fidèles. C'est donc vraiment la sainteté. C'est la sainteté de l'Église. C'est la sainteté de l'Église, c'est son unité. C'est sa fidélité. Du reste aussi, être compris dans sa sainteté. Et qu'elle soit vraiment au service du Christ, pour vivre la mission de Jésus. Et je crois que nous pouvons considérer que le bien commun de la congrégation, c'est le même que celui de l'Église. Anti. On est une partie intégrante. Donc c'est le même avec petite cette note particulière que le Saint-Père réclame de nous. Je viens de recevoir un petit mot, je reste. Le Saint-Père remercie, le Saint-Père par son substitut, remercie les vœux et dit qu'il donne à toute la congrégation sa bénédiction spéciale. Vous l'avez pas là ? Je vous l'ai donné. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est de ma faute, j'aurais dû vous le garder et puis le lire maintenant. Ça ne fait rien. On vous le lira demain au chapitre. Le Saint-Père insiste, pas dans ses vœux, mais vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit, quand le Père amer est passé, pour le renouveau de l'Église, je crois que nous devons toujours y penser. Que doit être notre place dans le renouveau de l'Église? Il va paraître sous peu un livre de notre cher Nathanaël sur les communautés nouvelles dans l'Église, donc sur le renouveau. Il fait ceci avec le désir de bien montrer la place de la communauté Saint-Jean La communauté Saint-Jean fait partie de toutes ces communautés, vous comprenez, c'est pas. Et pour bien montrer la place originale de la communauté parmi toutes les autres communautés du renouveau. Et je crois qu'en effet, on doit toujours se rappeler cela. Autrement, peut-être, on n'aurait pas de raison d'exister. Tandis qu'il y a une place particulière. Et cette place particulière, vous le savez bien, elle est désignée dans la règle. C'est une vie contemplative, doctrinale. Un souci de doctrine, de vérité, mais de renouveau dans la doctrine. Pas renouveau en disant en opposition avec ce qu'il y avait écrit anciennement, mais un renouveau, repenser toute la vraie philosophie réaliste, repenser ce que doit être une théologie aujourd'hui, et surtout une théologie mystique pour l'unité avec les orthodoxes, entre autres, et aussi pour pouvoir la communiquer au peuple de Dieu qui en a besoin, qui a très soif de cela. Vous savez bien, on ne peut pas communiquer Saint Thomas directement. Très difficile. Il y aura des petits groupes thomistes tout le temps dans un salon. Et c'est bien rare qu'il y ait des groupes thomistes très nombreux. Parce que les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui ont une peine énorme à comprendre saint Thomas. Vous savez bien, c'est difficile. Il faut être dans un climat particulier, et même dans ce climat, il faut un an, deux ans, trois ans, avant vraiment d'être familiarisé avec saint Thomas. Vous ne pouvez pas réclamer ça des fidèles d'aujourd'hui. Dès qu'il faut que la doctrine de saint Thomas soit tellement assimilée par nous, dans une théologie mystique, et aussi dans une sorte de théologie scientifique, pour qu'on puisse donner aujourd'hui une vraie doctrine. Et donc il faut bien comprendre que ça fait partie du bien commun de la congrégation. La fidélité à un enseignement qui soit le plus profond possible, le plus vrai possible, et le plus évangélique. C'est pas seulement pour nous, c'est pour l'Église aujourd'hui. Vous savez bien, c'est ça qui a été au point de départ une des grandes affirmations du pape. Il faut que, au point de vue doctrine, vous soyez très, très fidèle à l'Église. Une très grande fidélité à l'Église. Et l'Église elle-même désire cette fidélité à saint Thomas. Il n'y a plus beaucoup de lieux où l'on enseigne saint Thomas. Il faut bien se le dire. Où l'on enseigne saint Thomas pour connaître sa pensée, la pénétrer, la connaître du dedans, pas l'aspect logique, mais l'aspect contemplatif qui est présent dans toute la somme théologique de saint Thomas. Il y a très peu de lieux. On étudie saint Thomas encore comme un moment dans l'histoire de l'Église. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour l'Église, saint Thomas reste celui qui forme et qui donne l'habitus de sagesse acquise, c'est-à-dire de théologie. Alors tous ne pouvons pas réaliser au même degré cet amour pour saint Thomas et cette connaissance et cette connaturalité avec saint Thomas. C'est bien évident qu'on ne peut pas tous de la même façon. Mais on doit tous l'aimer. Ça, je crois ça très important. On doit tous avoir un très grand désir de contemplation. Et pour cette contemplation, un désir de fidélité à notre vie religieuse. Une vie religieuse qui doit être très théologale. Donc une vie religieuse qui va impliquer de fait une vie monastique au sens le plus profond qui soit, une vie, on est seul avec Jésus et avec Dieu. Puisque c'est ça la vie monastique. Avant tout et en premier lieu. Et cette vie monastique doit s'épanouir dans une vie de charité fraternelle. Et ce climat doit permettre des études sérieuses, mais surtout un grand amour de la vérité. Ce n'est pas tellement d'accumuler des quantités de connaissances, c'est beaucoup plus un très grand amour dans la recherche de la vérité, de la vérité telle que l'Église nous l'enseigne et nous le donne. Je crois ça très important. Priez pour que petit à petit, l'école Saint-Jean puisse vraiment se réaliser. C'est important, je crois, pour l'Église. Il faut qu'on soit attentif à cela. Il faut qu'on demande chaque fois au Seigneur qu'il y ait quelque chose qui se fasse un pas en avant. Lentement, puisque ça, ça se fait lentement. Et quand même, ça doit se faire progressivement. Et ce désir, que j'ai déjà dit plus d'une fois, que les pères qui enseignent ne soient pas seulement ceux d'ici, mais qu'il puisse y avoir des sessions par des pères qui vivent dans les couvents apostoliques. C'est bon pour le couvent apostolique et c'est bon pour la congrégation. Et c'est pour ça que ça se fait petit à petit, mais la session du Père Paul-Marie, à ce point de vue-là, est très significative. Et c'est bon d'avoir des jeunes professeurs, pas que des vieux, des jeunes professeurs pour vous montrer, mais oui, qu'on se fait progressivement. Les premières années où on enseigne, c'est jamais commode. Pour aider les jeunes professeurs en les aimant et en leur posant des questions, même s'ils ne savent pas répondre, qui montrent qu'on s'intéresse à ce qu'ils disent. C'est toujours important ça, qu'il y ait une coopération, vous voyez. L'enseignement implique une coopération. S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'enseignement. Il y a une juxtaposition et puis c'est fini. L'Église, il doit y avoir une coopération, il doit y avoir ce travail avec les professeurs, puis ce travail personnel. Je sais très bien que les charges sont lourdes et que ce n'est pas toujours commode. Mais après tout, c'est une sainte pauvreté que Dieu nous demande. C'est vrai. J'ai toujours dit la comparaison avec le Solchoir que j'ai connu. Au Solchoir, il y avait quand même 25 ou 30 frères converts. Vous voyez, ça vous déchargerait pas mal. Mais dès qu'on les coupe en deux, la moitié ici, l'autre moitié à Saint-Jonas, c'est vrai quand même une quinzaine serait pas si mal. On ne serait pas obligé de demander à Sœur Geneviève de s'épuiser dans ses travaux qu'elle fait, parce que c'est vrai, il faut voir quand même de temps en temps ce que ceux qui se taisent travaillent par derrière. C'est vrai, aujourd'hui, avec tous les papiers qu'on doit faire, c'est un travail supplémentaire. C'est vrai, vous avez tous des charges très lourdes, presque tous. Petit à petit, on puisse, je dis, arriver à faire que ces charges soient moins lourdes. Je pense à ceux qui s'occupent aussi des finances, hein. Ce sont des charges terribles, hein. Et c'est nécessaire. On ne peut pas mettre dans un tiroir ce qu'on dépense et dans l'autre tiroir ce qu'on reçoit, comme il se faisait chez les bons paysans d'antan. C'était beaucoup plus simple, hein. Mais je crois que si on faisait ça, qu'on coulerait très vite. Puis nos chers Saint-Joseph diraient quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est nécessaire de pouvoir laisse comprendre un tout petit peu la difficulté dans laquelle on se trouve. On est des pauvres. Il faut qu'on arrive petit à petit à se dépouiller d'une mentalité de ceux qui ont tout le bien-être qu'il faut pour arriver à être des pauvres. C'est pas commode. Ben, je signalais l'autre jour à propos du téléphone, par exemple. C'est un petit signe, pas plus. Les pauvres regardaient deux fois. On comprend très bien. Et je crois qu'il faut que nous comprenions ça petit à petit, que ça passe dans notre vie, que nous ayons les réflexes des pauvres. Ça se demande dans la prière. Et on demande à Saint-Joseph de nous apprendre ça. Et puis le pauvre travaille, il ne perd pas une minute. Il travaille. Dès qu'il peut. Il y a toujours un travail en train de se faire. Ce sont des commandes. Mais nous avons des commandes. C'est le Seigneur qui nous donne ses commandes. Passer des examens en vue du diaconat, si Dieu nous appelle au diaconat, en vue du sacerdoce, si Dieu nous appelle au sacerdoce. On ne doit pas essayer d'éviter ces commandes. On doit faire les travaux écrits le mieux possible, avec le plus d'amour possible. Il faut demander ça. Vous voyez, à l'occasion du chapitre général, je crois qu'on doit reprendre un peu ce sens-là. Il faut tout le temps comprendre que vous avez partie de la nature humaine, constamment d'être obligé de reprendre, de se remettre à la tâche. Parce que c'est difficile tout le temps d'aller plus loin. C'est si facile de prendre ce qui est plus en connaturalité avec nous. Il faut choisir ce qui est voulu par la providence divine. C'est ça qu'il faut demander. Donc réfléchir au bien commun de la congrégation, au bien commun de notre communauté. C'est l'occasion pendant le chapitre. Si vous avez des illuminations de l'Esprit Saint, qui soient vraies, hein, pas des petites fantaisie de vous, vous les communiquerez, parce que c'est bon de comprendre que pendant tout le chapitre, il y a comme une espèce de mobilisation de toute la congrégation pour prier davantage et mieux voir à la fois les grâces que Dieu nous donne. Il ne faut pas oublier de remercier. Parce que c'est vrai, depuis le dernier chapitre, il y a eu quand même beaucoup de grâces de Dieu. On souligne avant tout les choses difficiles, ça c'est évident et on comprend très bien. Mais il faut aussi voir le positif. Il y a des choses très positives qui se sont passées. L'entrée au ciel de notre frère Stéphane, c'est une chose positive, ça. Parce qu'il reste parmi nos prophètes perpétuels. C'est sûr. Il en fait partie. Il faut que nous comprenions toutes les grâces de cette année mariale. De voir que les attaques du démon sont plus fortes. C'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas eu une année qui a été aussi secouée que cette année-ci. Aussi secouée de multiples manières. C'est extrêmement curieux de voir cela. Mais en même temps, ça doit nous faire réfléchir et prier. Comprendre qu'il y a comme un appel de la Vierge Marie. Il ne faut jamais oublier que le démon ne peut pas supporter la présence de Marie. Et dès qu'il y a une présence de Marie dans un couvent, on est sûr que le démon attaquera. Et le démon aujourd'hui attaque d'une manière particulièrement forte. Et je crois que durant cette année mariale, le démon a rugi de façon toute spéciale. Alors il faut qu'on soit particulièrement éveillé à cela. Non pas voir le démon partout, mais savoir le discerner. Parce qu'il prend la couleur du sol dans lequel on est. Il ne faut jamais l'oublier. une astuce extraordinaire pour nous faire dévier des exigences du Seigneur sur nous. Ça, c'est depuis le début. Avec Ève, c'était l'astuce de la curiosité et l'éveil de l'orgueil. Avec Adam, ça a été une harmonie qu'il fallait. Il faut qu'il ne quitte pas Ève. Si Ève pêche, il faut qu'Adam pêche. C'est une manière de maintenir le couple, vous voyez. Très significatif, ça. Très astucieux, le démon. Et puis, il faut que nous demandions aussi, dans notre vie apostolique, nous essayons de faire vraiment ce que Dieu attend de nous. Dans notre vie liturgique aussi. Mais il faut qu'il y ait un regard très vrai, pas critique. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Sainte Vierge ne critique pas. Ça m'a toujours bouleversé, ça, comme Marthe. L'accusateur, c'est le démon. Ce qui accuse tout le temps, c'est le démon. L'accusateur, c'est le démon. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'accusateur, vous savez. Tellement facile pour nous accuser. Alors que la Vierge Marie et la petite Marthe voyaient toujours le côté positif. Toujours. C'était assez remarquable, ça. Donc elle encourageait. Elle donnait une espérance. Tandis qu'on voyait toujours le côté négatif. Vous avez envie de fuir. Vous faites fuir et vous avez envie de fuir. Alors vous êtes objet de scandale. Et le Seigneur nous dit attention, attention. Je parle de Marthe parce que, vous savez bien, demain, même une fête pour nous très particulière. On ne peut pas encore dire la messe en son honneur. On l'a dit in petto, au plus intime de notre cœur. Et on lui demande de nous aider. Souvent, vous savez, je sonne à la porte de Marthe. Je lui dis, si elle était là, j'irais tout de suite. Je lui dis, Marthe, voilà, il y a telle, telle chose. On lui disait ça dans le temps. Et Marthe était là pour toujours donner une lumière positive. Alors on aimerait, et je crois qu'on doit le faire demain, mettre la congrégation au pied de son petit lit, qui maintenant est glorieux, alors, c'est autre chose, mais auprès d'elle, et dire, voilà, Marthe, voyez bien, tel frère, surtout les frères, et telle sœur aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Seigneur réclame de lui? C'était ça qui était merveilleux. Ça ne voulait pas dire que Marthe réponde hein, d'une façon étonnante. Mon père, vous devez faire ça. Jamais elle disait ça. Tu vois, très rarement. Très rarement. Elle me l'a dit trois fois, je crois. Mais il faut faire ça. Vous devez faire ça. C'était très beau, du reste, quand elle disait ça. Ordinairement, Marthe demandait, compris. Et puis sa prière nous était donnée. Et alors, on voyait beaucoup mieux. Et je crois qu'on doit demain tous prier beaucoup, d'abord pour le chapitre, mais aussi pour tous en particulier, et chacun d'entre nous, en face de Marthe. Faire ce geste qu'on faisait à Châteauneuf. Marthe, voilà. Dites. que c'est vous qui êtes au point de départ. C'est pas elle qui a décidé, mais c'est elle qui a poussé pour que la communauté existe. Et donc Marthe porte la responsabilité en face de Dieu. Très fort. Alors on doit lui demander de nous éclairer pour que nous fassions bien ce que l'Esprit Saint veut que nous fassions. Pour que nous fassions bien la volonté du Père. C'est la seule chose qui compte. Il faut que nous aimions beaucoup la congrégation et que nous l'aimions pour qu'elle glorifie le Père. Et nous l'aimions pour qu'elle vive d'une façon très particulière ce mystère du Seigneur, glorifier le Père et sauver les hommes. Vive le mystère du sacerdoce de Jésus. Nous devons demander à Marthe de nous apprendre l'oraison, la soif de la contemplation. Vous savez bien combien Marthe était une âme d'oraison. Ce qu'elle a dit sur l'oraison est très beau. Et on voit la place qu'elle attribue à l'oraison. Si on est fidèle à l'oraison, on est fidèle à la volonté du Père. Dès qu'on quitte l'oraison, on ne sait plus où on va. Parce qu'on est tous très fragiles. Ça fait partie de notre monde d'aujourd'hui. Ça fait partie de cette fragilité inhérente au monde d'aujourd'hui. On est très fragiles tous. C'est l'envers d'autres qualités, de qualités de spontanéité, de qualités d'une affectivité très grande. Mais on est fragile. Et on doit le reconnaître. Et demander à Marthe de faire que cette fragilité ne soit pas pour nous une occasion d'avoir peur, de crainte, et alors par le fait même de prendre des solutions qui ne sont pas celles que Dieu veut qu'on prenne. Il faut que nos fragilités soient une occasion pour nous d'aller plus loin dans l'amour du Seigneur, parce que sa miséricorde nous a enveloppés de son amour. Et dès qu'on s'aperçoit de cette miséricorde de Jésus, alors il faut que notre cœur se laisse prendre par son amour et que nous puissions répondre à son amour. Il faut que nous demandions à Marthe ce sens très grand de l'oraison et la profondeur de l'oraison. Découvrir cette présence de Jésus au plus intime de nous-mêmes et nous mettre directement sous sa conduite, dans sa lumière, en suppliant Jésus de nous attirer vers lui. Cette force prodigieuse d'attraction de Jésus crucifié. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Marthe avait ce sens prodigieux de ça. Elle était attirée par Jésus. C'est ça qui frappait le plus. Dans une très grande pauvreté. Et Marthe apprenait à tous ceux qu'elle voyait, qu'elle avait l'occasion de voir. Elle apprenait sa très grande pauvreté. Oui, je crois que ça doit être une des très grandes grâces de la congrégation, ça. C'est là où je vois, j'allais dire, un peu la marque de Saint Dominique. Saint Dominique a eu un amour de la pauvreté très très grand. Et je crois que cet amour de la pauvreté était si grand chez Saint Dominique, c'était pour qu'il n'y ait pas d'obstacle par rapport à la vie apostolique. on n'est pas radicalement pauvre, le bon peuple de Dieu le sent tout de suite. C'est même très extraordinaire, ça. Je ne peux pas donner des détails ici, mais ça me frappe toujours beaucoup quand on va visiter les couvents, les prieurés. Il y a un aspect, vous voyez, d'apparence, de séduction que certains ont. C'est normal, ils sont jeunes. La séduction existe toujours quand on est jeune. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce que l'Esprit Saint veut, c'est former des apôtres qui soient comme naturalité,